Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Libero per il traversone pericoloso, rare! Orsic! Pirlo, ancora Pirlo, di tecco, tiro, grosso!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% foot italien. Je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Maillard-Pacini. Salut Guillaume.
Buongiorno Monsieur Crochet, buongiorno tutti.
Alors aujourd'hui Guillaume, nous allons évoquer les entraîneurs en Serie A et plus particulièrement quelques entraîneurs qui pourraient bien changer de club la saison prochaine. On s'est dit d'ailleurs qu'on pourrait faire un petit jeu. En gros, le petit jeu, c'est quel entraîneur pour quel club en vue de la saison prochaine. C'est une possibilité d'ailleurs, hein, Guillaume, qu'il y ait beaucoup de changements sur les bancs des gros clubs. On pense à Naples, à Lazio, à la Juve, au Milan, à la Roma, par exemple. Il y en a peut-être encore d'autres dans cette liste-là.
Alors, Guillaume, c'est même une tendance européenne, Johan. Hein, tu sais, regarde le Barça, ça va bouger quand même un peu partout. On le sent cet été, honnêtement. On le sait, hein, c'est souvent aussi les chaises musicales. Donc voilà, on sait que Xavi va partir du Barça, on sait que Klopp va partir de Liverpool, donc voilà, en Italie aussi, il y a une espèce de vaste d'entraîneurs qui s'installe, et c'est aussi pour ça, Johan, qu'on a eu cette idée de se projeter un peu vers l'été prochain, de se mettre à la place des dirigeants, et voilà, regarder un peu quel coach pour aller dans quel club.
Alors, deux petites précisions très rapides. La première, c'est qu'on va faire les 8 gros clubs italiens, on peut pas faire le top 20, parce que sinon on y passerait des heures et des heures. On va donner pour chaque club notre choix. Est-ce que l'entraîneur actuel reste ou est-ce qu'on le change? Et ensuite, si on le change, on donne le nom d'un candidat. Mais par contre, une fois que le candidat sera utilisé, qu'on l'aura pris pour un club, on ne pourra plus le mettre sur un autre banc comme hypothèse. Parce que ça évite d'avoir... on prend les 2-3 meilleurs qui circulent et on les met partout et comme ça, c'est vite plié. On s'est aussi dit qu'il fallait que ça soit réaliste. Hein. On aime tous beaucoup Pep Guardiola, mais il n'y a quand même pas de possibilité qu'il vienne en Italie. Et d'ailleurs, Guillaume, j'ai presque envie de commencer par ça. Est-ce que toi, tu as un ou deux entraîneurs que tu as écartés en te disant c'est impossible qu'ils viennent en Italie?
Bah, écoute, tu l'as dit déjà, Pep Guardiola, parce que même si on sait, Johan, qu'il est très attaché à l'Italie, hein, Pep Guardiola, hein,
bien sûr,
par son passé, par les entraîneurs qu'il a eus. Un jour, pourquoi pas, mais l'été prochain, évidemment, ça paraît très difficile. Après, Johan, évidemment, tu vois, un entraîneur comme Jurgen Klopp qui quitte Liverpool et de cette stature-là, forcément, tu rêves qu'il vienne en Italie, mais de ce qu'on a compris aussi, lui, il voudrait peut-être, prendre une sabbatique ou, en tout cas, c'est pas dans les clous. Mais disons, voilà, ces tauliers-là, ces entraîneurs de cet ordre-là, honnêtement, hein, que ce soit Klopp, Guardiola, je les vois pas arriver en Italie. Donc voilà, c'est vraiment deux entraîneurs que j'ai écartés. Et après, il y a un troisième que j'ai écarté paradoxalement, parce qu'il est italien, que tu connais bien, c'est De Zerbi. Parce que, alors, on n'est pas du calibre encore de Guardiola ou Klopp, mais de ce que j'ai pu lire, de ses interviews, de ce qu'il dit, notamment sur son présent à Brighton et en Première Ligue surtout, c'est que lui est très heureux en Angleterre et voit la différence entre la Première Ligue et la Serie A. Et de ce qu'on comprend, pour l'instant en tout cas, De Zerbi, c'est un entraîneur qui monte, qui est même confirmé aujourd'hui et qui est annoncé quand même dans les grands clubs, mine de rien, Johan. On voit souvent accoster
Notamment Liverpool, United.
Bien sûr, Mais lui, il avait dit clairement, pour l'instant, l'Italie, c'est pas d'actualité. Un retour là-bas. Donc voilà, tu vois, un entraîneur comme ça, quand même, qu'on aurait pu imaginer quand même. Je l'ai écarté.
Bon, j'ai écarté aussi Roberto De Zerbi. Pas plus tard qu'hier, j'ai encore eu la confirmation que la grande priorité, c'était la Première Ligue. Oui. Donc, je vois pas comment ça peut être possible. J'ai écarté aussi Ancelotti, mais pour des raisons logiques de contrat.
Qui a prolongé, hein.
Voilà, ouais, c'est ça. Et puis, j'en ai écarté un autre encore. Parce que je pense que, avec son évolution, avec ce qui se passe, avec des bancs qui vont se libérer ailleurs, un Xabi Alonso, par exemple, je le vois très difficilement, malheureusement, en Italie. On verra si toi, tu l'as mis quelque part, mais moi, je trouve... compliqué. Voilà, tu vois, il y a des bancs comme le Bayern, comme Liverpool, où il a une histoire en plus.
Exactement.
Peut se libérer, donc je vois pas comment il pourrait arriver en Serie A. Guillaume, je te propose de commencer. On va faire dans l'ordre du classement de la saison en cours. On enregistre, on est mardi. Donc, on prend le classement au mardi. Guillaume, l'Inter, le premier club, change ou change pas ?
Change pas. Je pense pas déjà parce que c'est la tendance quand même, Johan. Il y a aucune rumeur, aucune piste d'un possible changement de Simone Inzaghi cette saison. Il y en a eu l'année dernière. On en a parlé dans le précédent podcast focus sur l'Inter. Mais avec la saison que fait l'Inter actuellement, qui est quasiment parfaite, Johan, pour l'instant, que ce soit en Serie A ou le Scudetto petit à petit se rapproche ou, là, il a la Ligue des Champions, il a 8e de finale face à l'Atletico la semaine prochaine. Il a gagné la Supercoupe d'Italie, donc ce sera encore une saison qu'un trophée. Et honnêtement, on a l'impression que ce soit Marotta, que ce soit Ozil, que ce soit Zhang, et que ce soit même Inzaghi, il n'y a pas cette volonté de changer. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'un cycle qui va s'ouvrir avec Inzaghi, parce que quand même, ça fait quelques années qu'il est là maintenant, il avait pris la succession de Conte. Mais en tout cas, je ne le change pas parce que l'Inter aujourd'hui, c'est une espèce de mécanique qui est lancée et qui roule parfaitement. Et en plus, dans la presse ou en Italie, on parle pas du tout d'un départ de Inzaghi. Après, s'il gagne le Scudetto, que la saison, se termine de manière parfaite, rien ne te dit que lui pourrait dire j'ai fait un peu le tour à l'Inter et peut-être que je peux viser un grand club parce que Johan, sa cote elle monte aussi à Inzaghi. Donc attention au grand club qui pourrait bouger sur lui. Mais voilà, moi je change pas pour mon avis personnel et aussi parce que tous les voyants sont au vert pour poursuivre cette lancée qui pourrait amener au titre cette saison. Et toi, Johan, change ou change pas ?
Non, je change pas. Je change pas et je vais rien rajouter à tout ce que tu viens d'évoquer. Pour moi, c'est l'entraîneur du moment de l'Inter. C'est l'entraîneur
du moment en Italie.
L'entraîneur du moment, ça se passe bien. Il répond aux attentes, les joueurs sont contents, donc il n'y a pas de raison de changer. Guillaume, le choix suivant, le club suivant plutôt, c'est la Juve. Et je vais commencer cette fois.
Allez, vas-y.
Je vais commencer et évidemment, je change. Je change
pourquoi ?
Parce qu'il faut passer un cap, pas simplement en termes de résultats, parce que si Allegri fait top 3, on va lui dire que c'est bien, que c'est la Ligue des Champions, enfin que c'est la zone Ligue des Champions qui y retourne, etc. Donc, ok. Mais la Juve est arrivée à un moment où, en plus, avec l'émergence de nouveaux talents arrivant de la Next Gen comme première étape, il faut absolument un entraîneur qui les valorise beaucoup plus, qui les fera plus jouer. Il faut un entraîneur qui soit beaucoup plus moderne parce que le jeu ne cesse d'évoluer et tu ne peux plus avoir un entraîneur dans un club de ce standing-là qui n'évolue pas. Donc, même si on a vu un Giuntoli hier, a l'air plutôt partant pour le garder encore la saison prochaine, mais en tout cas, si j'étais directeur sportif de la Juve, je l'enlève et je mets Thiago Motta pour plusieurs raisons, à la fois sportive et gestion aussi, parce que Thiago Motta, c'est quelqu'un qui a un leadership naturel. Dans un club exigeant comme la Juve et avec des vestiaires qui ne sont pas toujours simples à gérer, je pense qu'un mec de ce calibre-là, avec son expérience de joueur évidemment, ses expériences maintenant comme entraîneur également, son leadership et son charisme naturel, le fait qu'il soit très respecté pour tout ce qu'il a apporté au football, et on le sait très bien en Italie, ça c'est pour la partie gestion. La partie football, ça me semble assez clair, les idées de jeu, la valorisation des joueurs plus ou moins expérimentés qui passent un cap, hein, parce que tu peux prendre un Zirkzee qui passe un cap, un Ferguson qui passe un cap, un Freuler qui retrouve un bon niveau, quelques inventions tactiques Calafiori mis en défenseur central alors que c'est un latéral gauche et ça marche très bien. Donc c'est quelqu'un qui fait passer un cap à ses joueurs, et en plus, ça tombe plutôt bien parce que, comme je le disais, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent de la next gen qui vont compléter cet effectif de la Juve, et tu as des joueurs comme Soule, Barrenechea aussi qui vont revenir de près, Caio Jorge, ils ne pourront pas tous rester, mais tu en as certains qui vont rester. Et il faut vraiment avoir un entraîneur qui soit en capacité de les valoriser déjà sportivement et ensuite économiquement, parce qu'on l'a dit plusieurs fois dans ce podcast, Guillaume. Des augmentations de capital successives de 900 millions d'euros, ce n'est plus soutenable à la Juve, et donc il faut développer des joueurs aussi pour cette raison. Guillaume, toi tu changes ou tu changes pas?
Alors je change. Alors je vais pas répéter ce que tu as dit parce que je suis globalement d'accord. Et moi je change Johan aussi, tu sais, pour l'environnement, parce que quand même on sent que voilà, Allegri depuis son retour, on sait que c'est très compliqué quand même avec une bonne partie des tifosi qui veulent plus, qui demandent plus. Donc même pour une raison de sérénité, pour voilà, pour changer, parce que voilà, il a atteint les 405 matchs avec la Juve, alors sur deux mandats différents, mais voilà, pour de la modernité, beaucoup de choses que tu as dit très justement, je change, Johan.
Et alors, moi, qui tu mets?
Eh ben écoute, Johan, moi je rêve. Moi je rêve.
Ouh là 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 là, il rêve.
Oui, oui, oui. Oui, je rêve. Je rêve. Alors, je rêve, mais de manière aussi réelle, c'est-à-dire que Johan, moi, celui que j'aimerais, c'est Zinedine Zidane. Pas.
Ah,
c'est Zinedine Zidane. Okay. Eh ouais, c'est Zinedine Zidane parce que pour moi, il y a une espèce de. Alors évidemment, tu laissais une espèce de. Tu vois, quelque chose de très naturel dans ce mariage entre la Juve et Zidane. Après, voilà, ce qui m'inquiète un peu, c'est que lui, j'ai l'impression qu'il attend l'équipe de France depuis très longtemps et que l'Euro 2024 pourrait être une sorte de couperet pour voir ce que fait Deschamps après, en fonction du parcours de l'équipe de France. Mais Zidane, parce que. Alors, le côté gestion, déjà. Parce que, bah voilà, un peu pour répéter ce que tu as dit sur Motta, mais évidemment, le côté respecté, le côté, voilà, par le parcours d'entraîneur aussi qu'il est. Alors, certes, au Real, certes, avec un gros vestiaire, mais trois Ligues des Champions consécutives, c'est pas rien. Et Zidane, surtout, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs auxquels il dirait oui. Et la Juve en est un, parce que, voilà, son passé, la trace qu'il a laissée, on sait qu'il est très apprécié de tout l'environnement. Et justement, je pense que la Juve a besoin de ça. Je pense que la Juve a besoin d'une étincelle dans ce moment-là de son histoire. Si Allegri s'en va, voilà, je pense que il faut un profil aussi qui suscite l'enthousiasme et l'excitation. Après, moi, c'est plus l'aspect voilà peut-être du jeu, parce que c'est vrai qu'au Real, il avait un vestiaire confirmé, il avait globalement des joueurs avec une certaine expérience, ce qui te permet voilà de gagner ces 3-5 consécutives. Est-ce qu'il arrivera à faire pareil justement avec ce que tu mentionnais, la next gen, le fait que la Juve a changé de politique aussi? Est-ce que ça pourrait matcher de ce point de vue-là? C'est une vraie interrogation. Mais voilà, moi, tu vois, Johan, j'ai besoin de cette étincelle-là à la Juve et je pense que Zidane serait capable de l'amener, parce que déjà, ça fait aussi longtemps que qu'il cherche un banc, hein, parce que mine de rien, c'est, les mois passent, les années aussi. On voit qu'il prend du beau temps avec sa famille, qu'il va avoir des matchs. Mais je pense que lui aussi a envie de repartir un peu au charbon. Et je trouve que voilà, entre la Juve et Zidane, il y a quelque chose de naturel, une alchimie, des retrouvailles qui pour moi seraient assez évidentes. Et je pense que ce serait peut-être le bon moment pour retrouver Zidane à la Juve. Et ça amènerait justement ce souffle nouveau post-Allegri qui ferait du bien à tout le monde, je pense.
Donc, Thiago Motta pour moi et Zinedine Zidane pour toi, mon cher Guillaume.
Exactement.
On passe ensuite, Guillaume, au Milan. Est-ce que tu changes ou est-ce que tu gardes Pioli?
Alors écoute, moi je change. Je change parce que je pense que le cycle Pioli s'essouffle un peu. Alors voilà, les résultats sont plutôt bons depuis le début de l'année, sont même très bons. On sent qu'il y a quand même un léger regain sur cette partie de saison. Mais après, voilà, je pense que c'est rare aujourd'hui, Johan, hein, les entraîneurs qui restent très longtemps au sein du même club. Et je pense que voilà, pour tout le monde, pour les joueurs, pour le vestiaire, pour les supporters, même pour le club, je pense qu'un nouveau cycle, quelque chose de nouveau, voilà, ferait du bien un peu à tout le monde. Faut se souvenir quand même, mon cher Johan, que l'année dernière, Milan finit quand même cinquième, hein, au classement. S'il arrive, n'est pas pénalisé. Il faut aussi se souvenir en 2023 les 5 derbies perdus, dont 2 en demi-finale de C1. Alors il y a eu ce parcours en Ligue des Champions justement, mais bon, ça peut pas suffire. Faut rappeler aussi cette saison, hein, difficile avec une élimination Ligue des Champions dans un groupe compliqué à égalité de points que le PSG. Mais voilà, tu passes pas quand même. L'élimination Coupe d'Italie. Voilà, il y a la Ligue Europa, c'est un peu l'objectif, mais ce sera pas facile d'aller au bout. Et le Scudetto, voilà, ça paraît assez compromis au vu du rythme de l'Inter. Donc, ça pourrait être une nouvelle saison sans trophée. Et voilà, et même avec les supporters, justement, il y a aussi une certaine frange qui demande son départ. Donc, je pense que pour tout le monde, l'histoire se termine bien. Ce serait une belle chose, mais je pense que le cycle Pioli est fini. Et pour le remplacer, Johan, eh ben écoute, je prends l'entraîneur que tu as mentionné juste avant, Thiago Motta. C'est quelque chose dont on parle d'ailleurs, hein, en Italie. C'est un nom qui est sur les tablettes du club, qui est suivi par Moncada, par Ibrahimovic, par D'Ottavio. Voilà, cette triade-là suit le profil de Thiago Motta. Ce qui pourrait poser problème, Johan, c'est sont passés à l'Inter, évidemment. Et on l'a vu lors du dernier Milan Bologne,
Eh oui.
où quand il a pris rouge, tout le stade l'a insulté.
Alors,
Donc ça,
petit
c'est quelque
spoiler,
chose.
Guillaume, je le dis tout de suite comme ça. Moi aussi,
Ouais.
je change Pioli pour les raisons que tu as données.
Et tu mets pas Mota.
Et j'ai pas mis Motta pour cette raison-là.
Oui, évidemment. Mais ce sera quelque chose, Johan, qui devrait être discuté. Parce qu'on sait que le nom est là, mais c'est vrai que c'est un vrai problème. On l'a vu lors du dernier Milan Bologne, c'était il y a 15 jours. Hein, donc c'est assez récent. Donc voilà, voir Mota sortir, se faire expulser sous les huées, forcément, côté
Et les
dirigeants, s'ils y
insultes, pas
pensent.
simplement les huées,
Ah oui,
mais aussi les insultes.
bien sûr, les insultes. Donc voilà, moi, c'est quelque chose, voilà, c'est le premier frein que j'aurais pour Mota, mais en tout cas. Le profil, tout ce que tu as dit sur les qualités de
Ouais.
l'entraîneur, la gestion, sa capacité à faire évoluer les joueurs, les jeunes, la gestion du vestiaire. Tu vois, avec la politique du Milan, ça peut matcher. On sait qu'on parle beaucoup de Conte aussi, mais voilà. Alors peut-être qu'on en reviendra plus tard, mais moi, Mota, je trouve que dans son ascension, dans sa capacité au travail qu'il a fait avec Spezia dans un environnement pas facile. À Bologne, où il est en train de les emmener en Ligue des Champions, ou du moins en Europe, et le jeu qu'il produit, sa capacité à faire évoluer les joueurs, voilà, tout ça, je pense que ça pourrait matcher. Après, voilà, le seul hic, comme je t'ai dit, c'est voilà le problème des supporters qui pourraient avoir des difficultés, on va dire, à l'adopter. Et toi, Johan, est-ce que tu changes Pioli? Ah, tu m'as dit oui. Mais
Ouais.
alors, du coup, tu mets qui?
Alors, je mets un
Roulement de
nom qui a
tambour.
été évoqué. Non, non, c'est un nom qui a été évoqué plusieurs fois du côté de Milan. C'est un entraîneur étranger.
Ah.
Et oui, je mets Julen Lopetegui.
Ah, qui est même en pole position, hein, on peut le dire maintenant. En
Ouais,
Italie, c'est un nom
exactement.
qui est très mentionné.
Alors, au-delà du fait que pour moi, c'est un très bon entraîneur, que c'est un très gros bosseur aussi. Et ça compte beaucoup à Milan avec les gens qui sont en place. Il a une première expérience en dehors de l'Espagne. Et ça compte aussi de voir un peu comment il a géré cette période en Première Ligue, qui est quand même le championnat le plus compétitif d'Europe, où il avait réveillé clairement Wolverhampton après être arrivé en cours de saison. Il a une identité de jeu assez claire. Il aime travailler avec les jeunes. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'ambition, au contraire, il est plutôt ambitieux. En Coupe d'Europe, il a gagné une Europa League avec Séville. Il fait un huitième de finale de Ligue des Champions et un autre huitième de finale d'Europa League. Il termine à chaque fois en zone Ligue des Champions, en Liga, avec un effectif de Séville qui avait beaucoup baissé en qualité au fur et à mesure des années. D'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui. Il a fait, je crois, une demi-finale de Coupe du Roi également. Donc, c'est quand même quelqu'un qui va assez loin dans les compétitions, qui est capable de gagner aussi une C3 qui, du coup, a accumulé aussi beaucoup d'expérience. Souvenons-nous aussi un peu de son équipe d'Espagne, hein. Ça remonte un peu, mais son équipe d'Espagne qui met des roustes à la France, à l'Italie, avec des joueurs devant qui n'étaient pas que des cracks, hein. Il y avait Asensio, Isco, Diego Costa. Enfin, on n'était pas non plus avec que des énormes cracks période Aragonès ou Del Bosque. Donc, ouais, j'aimerais bien voir un mec comme Lopetegui et avec ce profil-là dans cet effectif-là de Milan. Voilà, c'est pas un choix. En fait, j'ai hésité beaucoup entre lui et un autre entraîneur italien cette fois, qui a un style de jeu très différent de ce que propose Milan actuellement, qui a un autre schéma de jeu, qui est beaucoup moins expérimenté. C'est une des raisons qui m'ont fait pencher plutôt pour Lopetegui. Et cet entraîneur italien, c'était Raffaele Palladino. Mais je me demande si Palladino, l'écart Monza-Milan est pas un peu gros à l'heure actuelle.
Ça, c'est ce qui est dans mes 8 en tout cas. Je l'ai placé quelque part.
D'accord. Et ben, très bien. C'est un entraîneur que j'apprécie, mais ouais, je me suis dit que le gap était peut-être un peu imposant.
Moi, Johan, j'ai une question sur Lopetegui. Est-ce que finalement, mais c'est une question plus globale, et on pourrait même en faire un podcast un jour d'ailleurs. Est-ce que les entraîneurs en Italie, enfin les entraîneurs étrangers, est-ce que ça marche vraiment? Parce que tu sais que j'ai pensé un peu, j'ai réfléchi un peu, parce que c'est vrai que l'hypothèse à Milan est assez concrète de voir Lopetegui, mais rien que si tu prends les derniers vainqueurs de Scudetto, tu vois, t'as Pioli, t'as Spalletti, alors on va dire que cette saison tu pourras avoir Inzaghi, ce qui est probable, t'as Conte évidemment, on peut remonter plus loin, t'as les Capello, alors t'as Eriksson à la Lazio, mais t'as Capello à la Roma, t'as Ancelotti après, alors il y a évidemment Mourinho, et son hégémonie un peu à l'Inter. Avant, il y avait Mancini. Tu vois, j'ai toujours l'impression qu'en Italie, mais comme je l'ai dit, hein, on pourra en parler plus longuement dans un autre podcast, mais je trouve vraiment qu'il y a une interrogation sur les entraîneurs étrangers. Et je me souviendrai toujours, Johan, alors certes, c'est à Rome et c'est une place très compliquée, on le sait, mais je me souviens que c'est Luis Enrique qui avait aussi beaucoup de mal, mais c'est justement par rapport à Rome où il existe une ville avec beaucoup, beaucoup de pression. Mais j'ai souvent l'impression que les entraîneurs étrangers ont parfois du mal à s'adapter au football italien ou à la Serie A. Et c'est vrai que quand tu vois les coachs aujourd'hui, à Naples aujourd'hui, t'as Mazzarri, mais avant, l'année dernière, t'avais Spalletti, t'as Pioli à Milan, t'as Inzaghi à l'Inter, t'as Allegri à la Juve, à la Fiorentina, t'es italien, donc t'as Gasperini à l'Atalanta. Tu vois, il y a toujours quand même une espèce de « on va sur de l'italien parce qu'il connaît déjà, parce qu'il est déjà rodé ». Et c'est vrai qu'à Milan, par exemple, les derniers entraîneurs étrangers comme ça qui me viennent, tu sais, t'as eu Seedorf, évidemment, qui est passé, mais c'était une expérience très, très rapide parce qu'il avait justement aucun passé quasiment d'entraîneur. Il y a Rudy Garcia récemment qui est passé à Naples, bon, c'est pas très bien passé. Donc tu vois, j'ai l'impression que parfois les entraîneurs étrangers en Italie, ça patine un peu.
Il y a exemple et contre-exemple, parce que tu as cité Luis Enrique, c'était le tout début de sa carrière, donc c'est oui, un peu compliqué, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Rudy Garcia, son premier passage à la Roma est excellent. Benitez, son passage à Naples a énormément aidé le club à se structurer, même dans le jeu. Moi, je me souviens d'excellents matchs sous Benitez. Et puis il y a autre chose, c'est que ce qui était valable avant, et je partage ton constat, c'est pas dit qu'il sera valable à l'avenir dans le sens où les propriétaires de clubs ont changé. Et par exemple, tu vois un Paulo Fonseca qui arrive à la Roma, tu peux avoir des propriétaires américains qui sont de moins en moins bloqué par cette idée d'italianisme à avoir sur le banc, je pense sincèrement.
Et on le voit à Milan d'ailleurs.
Regarde une ascension comme Moncada, il n'est pas italien et aujourd'hui il est directeur technique du club. Est-ce que ça aurait été possible ce genre de choses sans un propriétaire étranger? J'en suis pas persuadé, tu vois.
Si un club aujourd'hui en Italie qui peut miser justement en mode précurseur, on va dire, sur un entraîneur étranger, dans ce qui est proposé un peu novateur, je pense c'est Milan, justement. Parce que tu vois l'Inter, alors sans Inzaghi certes, mais tu vois un vieux roublard comme Marotta, voilà, je pense pas qu'il irait miser sur un entraîneur étranger comme une espèce de pari, même si Lopetegui a une expérience qui est assez énorme, donc tu mises pas non plus sur un entraîneur émergent. Mais c'est vrai que si voilà, s'il y a un club qui peut prendre cette initiative-là, c'est vrai que ça peut être Milan dans le sens où, tu vois, moi, je sais que par exemple, alors, le Decreto Clash est maintenant est terminé, mais je sais que les dirigeants du Milan, et mon cas d'a compris, et on le voit d'ailleurs, aiment pas beaucoup négocier avec les autres clubs italiens. Tu sais pourquoi? Parce que, bah, c'est médiatisé, parce qu'il faut prévenir les journalistes en amont, parce que faut qu'il y ait des caméras devant les restaurants où il y a les rendez-vous, parce que bah, c'est des arrangements entre amis, hein, Johan, il faut le dire aussi, c'est des prêts, c'est étalé sur plusieurs années. Voilà, c'est un spectacle en Italie, le mercato, et les dirigeants du Milan aiment pas beaucoup ça. Donc voilà, c'est aussi pour ça que bah, ces derniers temps, Milan a beaucoup pioché à l'étranger et rarement en Italie, et c'est pour ça qu'il y a de moins en moins d'Italiens. C'est parce qu'ils n'aiment pas justement ce côté voilà, italien, folklore. Un peu... Exactement, folklore à l'ancienne. Voilà, c'est le calcio, c'est à l'ancienne. Et ça, ils n'aiment pas beaucoup. Là, ils vont être un peu obligés de revoir ça parce qu'il n'y a plus le Decreto Clash, justement. Mais en tout cas, pour aller en ton sens là-dessus, c'est vrai que s'il y a un club qui peut miser là-dessus sur un entraîneur étranger, c'est vrai que ça peut être mignon. Mais voilà, moi, j'avais cette petite interrogation sur l'entraîneur étranger. Mais je serais curieux, pour le coup, de voir ce que ça pourrait donner.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Guillaume, club ouais. Suivant, Atalanta. Allez. Pour moi,
tu changes,
ça ne bouge... Non, pour moi, ça ne bouge pas. Gasperini reste entraîneur du club.
Moi non plus, sache-le.
Bon, et bien celui-là, on le passe alors du coup très très vite. Et donc, on va passer à la Roma, qui est pour moi le plus dur à pronostiquer. Déjà parce qu'il y a eu un changement en cours de saison. Et que ça va dépendre beaucoup de ce que fera la Roma de De Rossi. On voit des premières choses qui sont intéressantes. Au début, on disait...
La Roma joue au football, d'ailleurs, Johan, c'est fou.
Ouais, c'est ça, on disait... Ouais,
la Roma, c'est jouer au football.
C'est ça, on disait, ouais, mais c'est Cagliari. Puis on a vu que la première mi-temps contre l'Inter, ah, bah c'était l'Inter. Et donc, il y avait quand même du jeu, il y avait quand même des idées, que tout n'était pas parfait, loin de là, mais qu'en tout cas, il y avait des joueurs aussi qui, bizarrement, retrouvaient un peu d'enthousiasme, qui étaient à nouveau contents, qui souriaient à nouveau...
Dont le capitaine.
Dont le capitaine, hein, par exemple. C'est notamment, je trouve, la plus grosse différence.
Ouais, totalement.
Dans l'effectif de la Roma. En plus, tu sais, il y a une situation qui est un peu complexe pour les Friedkin parce que la décision de ne pas garder Mourinho était extrêmement impopulaire, notamment pour les gens qui habitent Rome et ceux qui vont au stade. Je ne parle pas trop de ceux qui sont à l'étranger ou en dehors de Rome, qui n'ont pas toujours le même lien avec le club, qui ont parfois un peu plus de recul sur les choses. Et si De Rossi fait du bon boulot, alors il faut réussir à quantifier ce que serait bon boulot. Pour moi, c'est finir déjà devant la place qu'occupait la Roma quand Mourinho était encore là. Par exemple, une cinquième ou une sixième place, je ne vois pas comme quelque chose de négatif pour De Rossi en termes de résultats. Il faudra voir aussi les prestations, comment tu fais le mix entre tout ça. Mais s'il termine, tu vois, 5e, 6e en proposant du football, que les joueurs continuent à en être extrêmement satisfaits, qu'ils retrouvent l'enthousiasme, etc., pour moi, c'est impossible de prendre une deuxième décision aussi impopulaire en 6 mois.
Ça me Écoute, semble impossible. Ouais. Déjà, la première chose, c'est qu'on peut dire que De Rossi a une chance de rester. Quand il est arrivé, quand même, c'était une espèce de. Voilà, d'un périmètre pour aller jusqu'à la fin de la saison et ensuite voir. Ce qui serait décidé, mais c'est vrai que les débuts sont prometteurs à voir sur le long terme, notamment en Ligue Europa. C'est ce qui pourrait aussi jouer peut-être dans la balance. Voilà, le jeu de résultat, tu l'as dit, notamment en Serie A aussi. Mais dans le cas, Johan, ou De Rossi, parce qu'il n'a pas non plus une grande expérience en tant qu'entraîneur, De Rossi, donc
bien sûr.
Ça resterait un pari sur le long terme, parce que tu pourrais te dire, bon, bah, De Rossi arrive en cours de saison, il a su redonner justement. Voilà, de la sérénité au vestiaire. La com a totalement changé en conférence de presse, tu le sais, autour du club. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau autour de ça. Et on pourrait se dire, est-ce que, une fois cette saison terminée, qui était compliquée pour la Roma, est-ce que, voilà, De Rossi serait capable de maintenir justement ce cap-là? Voilà, ça pourrait être aussi une interrogation des Friedkin qui, quand ils avaient pris Mourinho, justement, ils cherchaient un entraîneur confirmé avec une expérience. Mais en tout cas, Johan, bon, la question
que... Vu qu'il faut qu'on fasse un choix, Guillaume.
Voilà, exactement.
Moi, je considère que si De Rossi continue sur la tendance des quatre premiers matchs, c'est-à-dire,
oui.
Je dis pas gagner trois matchs en quatre, je dis aller en gagner entre deux et deux et demi avec quelques matchs nuls, et que le jeu, la proposition de jeu s'améliore, ce qui est le cas actuellement, mais qu'elle continue un peu sur cette tendance-là par rapport à ce que faisait Mourinho, et que les joueurs en sont donc satisfaits, pour moi, De Rossi reste. Dans le cas contraire, si je dois changer De Rossi,
allez,
je pars sur Vincenzo Italiano, qui amènera cette identité forte, qui amènera aussi cette capacité à valoriser les joueurs, qui amène aussi un côté dynamique exigeant, mine de rien, et qui a connu une place... C'est marrant parce qu'en dehors de l'Italie, les gens n'ont peut-être pas cette impression d'exigence à Florence, mais qui est presque trop importante, parfois démesurée, notamment sur l'esthétique.
Oui. C'est que rien que Florence, pour la ville.
Bah ouais, c'est la ville de l'art, c'est la ville des artistes, c'est voilà, la ville de la beauté, entre guillemets, et donc ça revêt une importance particulière. Et donc, Italiano a quand même cette expérience-là. Il a aussi, mine de rien, une petite expérience européenne qui commence à s'accumuler aussi, hein, mine de rien. Finale de la Conference League la première saison. Là, à nouveau en Conference League et qualifié pour les huitièmes de finale. Je trouve qu'il coche pas mal de cases, et notamment la case démarrer un nouveau projet à Rome, parce que je pense que ça sera le cas cet été. Donc, si la tendance est là et OK, De Rossi. Si la tendance n'est pas OK, mon choix va vers Italiano.
Écoute, sur De Rossi, je suis d'accord. D'ailleurs, je l'ai mis entre parenthèses sur mon choix d'entraîneur, hein, si ça se passe bien. Mm-hmm. Et dans le cas inverse, ouais, moi, je soumets un autre nom dans ce lieu justement des chaises musicales. Je dis pourquoi pas Stefano Pioli, justement. Dans l'idée, tu vois, de normalité, bah d'expérience, tu as dit, parce qu'il a quand même gagné le Scudetto il y a deux ans maintenant.
Donc, c'est énorme, Guillaume, parce que le choix de la normalité, je spoile rien, mais j'ai recasé Pioli quelque part avec exactement le premier argument sur ma feuille, c'est retour à la normalité.
Mais je sais où tu l'as placé. Je sais. C'est un club champion d'Italie. Peut-être.
C'est possible.
Là, mais tu vois ce que je veux dire pour la Roma aussi, avec Pioli, un peu ce qu'a ramené De Rossi d'ailleurs. Mais tu vois, Pioli, c'est quand même quelqu'un de qui s'affole pas, qui est très calme, qui a maintenant, comme je disais, une expérience même de quête de trophée, parce que bah, mine de rien, gagner un Scudetto à Milan, c'est pas rien. Ça faisait des années que le club ne l'avait pas fait, hein, ça faisait plus de 10 ans. Donc voilà, Pioli, voilà, il a maintenant, pour moi, le bagage assez solide pour aller à Rome et voilà, pour justement pour ramener cette voilà ce calme dont Rome a tant besoin, Johan. Et même voilà dans la gestion, notamment de la gestion du vestiaire, de la com, de tout ce qui entoure le club pour les joueurs aussi, je pense que Pioli serait un profil qui serait très intéressant. Donc voilà, si, ce serait peut-être une idée, en tout cas si De Rossi n'était pas confirmé à la fin de la saison.
Guillaume, vu comme c'est parti, je pense que nous n'avons aucun choix en commun sur les changements d'entraîneur. Et ça, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa.
C'est vrai.
Allez, continue. On passe à la Fiorentina. Donc, la Fiorentina, moi, j'ai mis Italiano potentiellement à la Roma. Donc, avec ce potentiellement à la Roma, je suis obligé de penser à un nouveau technicien pour la Fiorentina.
Mais qui ?
Eh bien, je vais encore aller à l'étranger. et j'ai choisi Arne Slot, le technicien de Feyenoord. Parce que je pense que c'est un bon compromis entre prendre la suite d'Italiano avec quelques petites nouveautés, différences. Il y a évidemment cette notion de jeu qui est très présente chez Arne Slot, qui avait le plus beau jeu des Pays-Bas avec la AZ Alkmaar, en compagnie à l'époque évidemment de l'Ajax de Ten Hag. Parce que ensuite à Feyenoord, outre le fait d'avoir des résultats, et pas qu'un peu d'ailleurs, il y a aussi du jeu, qu'il a aussi, lui aussi, une petite expérience européenne, hein, qui commence, mine de rien, un peu comme Italiano. Hein. Un quart de finale d'Europa League, une finale de Conference League, l'a qualifié pour les barrages encore contre la Roma, donc potentiellement encore un huitième de finale d'Europa League. Il y a la valorisation des jeunes joueurs, et il y a du caractère aussi chez cet homme-là, et il en faut aussi pour entraîner en Italie. Dernier élément, Il y a beaucoup de nationalités dans l'effectif de la Fiorentina. Et il y en a aussi beaucoup à Feyenoord. Ils composent avec des Brésiliens, des Mexicains, des Argentins, des Croates, des Autrichiens, des Norvégiens, des Iraniens. Donc, je pense, et des Néerlandais évidemment, donc je pense qu'il a pas mal de qualités. Et en plus, je pense que pour lui, s'il doit aller sortir des Pays-Bas, c'est une première étape OK pour lui, dans le sens, c'est pas aller dans le bouillon de la Roma, c'est pas aller en première ligue se brûler les ailes, c'est pas, tu vois, c'est pas ce genre d'expérience-là. Je pense que la Fiorentina, avec Commisso, a de l'ambition. On le voit que ça commence à faire la Coupe d'Europe très régulièrement, voire chaque année, et qu'il y a cette volonté de passer un cap. Et donc, je vois bien Arne Slot.
Écoute, moi, si Italiano s'en va, c'est un nom que tu as déjà cité. Alors, la seule chose qui me dérange un petit peu, c'est le schéma de jeu, donc qui pourrait peut-être un peu bloquer. Mais c'est Paladino, justement, parce que toi, tout à l'heure, tu parlais peut-être de step un peu trop grand, voilà, pour l'entraîneur de Monza. Mais tu vois, passer de Monza à la Fiorentina, Italiano, voilà, tout le monde connaît son profil. Mais Paladino, il est un peu pareil dans le sens où c'est quelqu'un qui étudie beaucoup le football, qui a des idées novatrices, qui voilà, qui veut un football proactif, et je trouve que dans les idées il y a quand même des similitudes pour poursuivre justement le projet de Italian. Alors voilà, il y aura peut-être comme je disais, le problème du schéma tactique, mais en tout cas dans le profil, dans les idées, dans les entraîneurs qui montent aussi en Italie, Paladino, c'est un profil qui est très suivi, et je trouve que signer à la Fiorentina, ce serait peut-être le bon step pour lui. Alors, pour la Fiorentina, ça ressemblerait quand même à un petit pari, mais un peu comme l'était Italiano à l'époque
Bah
aussi, hein.
mine de
Donc,
rien, ouais, t'as raison.
voilà, donc ça ressemble aussi à ce qui avait été fait à l'époque. Donc, voilà, je trouve que c'est le bon milieu pour Paladino, et pour la Fiorentina, c'est un projet, c'est un pari même qui ressemble un peu à celui d'Italiano. Donc, voilà, c'est quelque chose qui m'intriguerait beaucoup si Paladino à la Fiorentina.
Guillaume, on passe à la Lazio.
Allez.
Tu changes ou
Ah,
pas?
j'allais te poser la même question. Est-ce que tu conserves Mauricio Sarri ou non?
Non,
C'est très tendu d'ailleurs en ce moment. C'est très,
moi
très
je
tendu.
change. Moi je change. Je change parce que je pense que ce club a besoin de retrouver de l'enthousiasme, de la moderne, beaucoup plus de, j'allais dire enthousiasme et sourire, c'est un peu la même chose, mais dans l'idée, beaucoup plus de football que ce qu'on voit depuis pratiquement un an, beaucoup plus de et aussi un entraîneur, tu sais, un peu plus moderne qui met à jour ses idées, qui met à jour son logiciel de pensée footballistique, et je trouve que Sarri est resté bloqué et que je le vois pas beaucoup évoluer. Et en plus, je le dis, voilà, clairement, moi ça me gonfle un entraîneur qui ne parle plus jamais de football, mais c'est de la faute de l'arbitre, du VAR, du calendrier, de la ligue, de l'état de la pelouse, des blessés, machin. Ok, c'est bon, on a compris. À un moment donné, si t'as plus envie d'être entraîneur de foot, et bah, ne le sois plus. Donc pour moi, je change. Et c'est le club pour moi où j'avais mis le plus de candidats possible. J'avais en
C'est pas
tête.
évident à Lazio, hein.
Non,
C'est pas
c'est pas
évident du tout,
évident.
hein.
J'avais en tête Paladino, mais je ne suis pas certain que l'effectif soit réellement adapté ou extrêmement adapté à lui. Donc je l'ai écarté. Ensuite, j'ai pensé à Sergio Conceição, passé par le club, mais extrêmement dur à sortir de Porto. En fait, s'il n'y avait pas cette notion de difficulté à sortir de Porto pour une question de clause libératoire, en plus, est-ce que lui qui est de l'écurie Mendes, il va avoir envie d'aller à Lazio où il n'y a quasiment pas de possibilité de faire de transfert, j'exagère un peu, et donc de moins faire de business, parce que quand Mendes y met son entraîneur, il a envie de faire du business avec lui, sauf que Lotito, comme il a un peu des oursins dans la poche, c'est un peu plus compliqué. J'exagère un peu, hein, parce qu'il a quand même dépensé la Castellanos, Rovella, Camada.
Camarda,
Non,
Camada,
oui, parce que oui, je
Camada,
pensais entre celui du Milan et celui de la Lazio,
Camada,
c'est un peu
Camada,
compliqué.
Camada.
Voilà,
Il joue plus,
Camada,
donc on le voit plus beaucoup.
qui vient de Francfort. Guendouzi aussi, où ils ont dépensé de
Ouais.
l'argent. Donc tu vois, bon, il en dépense pas énormément, mais cette année, il avait fait un effort. Et d'ailleurs, c'est en ça que je suis encore en plus déçu par ce que fait la Lazio de Sarri. Et donc, s'il n'y avait pas eu cette question de le sortir de Porto, c'est un peu délicat, j'aurais mis lui. Et donc, je suis parti sur un entraîneur libre, actuellement,
Ah.
un étranger, et c'est Oliver Glasner, l'allemand, allemand ou autrichien, je suis en train de... Non, il est autrichien, je crois, Oliver Glasner. autrichien, voilà, c'est bien ça, qui entraînait en Allemagne, l'Eintracht Francfort, qui m'a vraiment plu. Jeu en transition, et mine de rien, même avec l'arrivée de Sarri, pour moi, je trouve que cette Lazio, elle est jamais aussi à l'aise qu'en transition. Héritage sans doute de Simone Inzaghi, mais vraiment, je trouve que c'est en transition que, on l'a vu encore contre Cagliari, dès que ça récupère le ballon et que ça se projette très très vite devant, t'as des joueurs comme Felipe Anderson, alors quand Zaccagni est là, il y a Zaccagni, mais aussi Felipe Anderson, Isaksen, Immobilier, la prise de profondeur, Castellanos, on est capable, Kamada, ah, qui a joué à Francfort, donc qui a un peu cette logique-là aussi de jeu, Guendouzi, qu'on est aussi capable de se projeter beaucoup. Donc je trouve que l'effectif correspond assez bien aux qualités de Glasner. Avec l'inconnu de, ça fait un petit moment qu'il entraîne, enfin un petit moment qu'il entraîne plus, oui entre guillemets, de l'adaptation. Est-ce que Lotito va aller chercher un entraîneur de ce type-là? Je suis pas persuadé. Mais en tout cas, avec l'effectif qu'a aujourd'hui la Lazio, moi je serais assez, ouais, assez hypé par une arrivée d'un entraîneur comme Glasner.
Écoute, tu parlais de pommeau de transition, ouais. Moi, je vais te soumettre un nom. Alors, c'est un entraîneur étranger aussi, mais qui connaît très bien l'Italie et qui est libre d'ailleurs, et qui pourrait coller aussi avec cet effectif-là, justement, pour le football que tu voudrais pratiquer. C'est Igor Tudor. Voilà. Justement, moi, j'ai pensé aussi aux qualités de l'effectif que tu mentionnais. C'est vrai que Tudor, en plus, tu vois, je trouve que c'est le bon équilibre. Entre, bah voilà, évidemment, l'entraîneur étranger, mais il connaît tellement bien l'Italie, Tudor, que tu n'auras pas tu vois, ce temps d'adaptation, peut-être. Il sait très bien comment ça se passe à Rome, il connaît bien la Serie A, il connaît bien le championnat, il connaît bien le jeu. Et c'est un entraîneur, justement, Johan, aussi, qui s'est modernisé ses idées. Voilà, j'ai lu récemment, alors je sais plus c'est dans quel média, mais il avait parlé, où il disait que c'est, voilà, quelqu'un qui regarde beaucoup de matchs, parce qu'il a envie, justement, bah, de mettre à jour son logiciel. Donc Tudor, justement, moi, c'est un profil, voilà, qui me séduirait, hein, en tout cas à
Ah,
Lazio, surtout
j'aime
aussi,
bien ton call, tu vois.
voilà,
Ouais.
et en plus, voilà, pour le vestiaire, hein, voilà, c'est aussi une personnalité assez forte, et il a montré quand même, Johan, à l'OM, que ça s'était quand même plutôt bien passé, hein, et on sait que l'environnement marseillais n'est pas des plus simples, voilà, moi, Tudor à Lazio, j'avoue, c'est quelque chose qui me, comme tu l'as dit, hyperait aussi.
Ah, j'aime bien. Tu vois, j'ai pas du tout pensé à lui, bizarrement.
Eh bien, écoute,
Et j'aime bien l'idée, tu dors à la Lazio, clairement.
on va écrire à Lotito, on va lui envoyer
Ouais,
un message
on
sur
va lui envoyer un
WhatsApp
petit message.
pour lui demander.
Guillaume, il nous reste le Napoli. Alors, je
Allez.
vais commencer puisque j'ai un peu spoilé sans vouloir
Bon,
trop
de toute façon,
spoiler,
on
mais
change. Déjà, on
oui,
change.
bah on change, oui.
Il n'y a
Et
pas beaucoup de surprises.
pas trop de débat là-dessus. Et moi, je prends donc Stefano Pioli. Et je te lis ce que j'ai marqué sur ma feuille. Je prends Stefano Pioli, 2 points, retrouver de la normalité. Et voilà, parce que c'est ça, tout ce que tu as dit, toi tu le mettais à la Roma et tout ce que tu as dit est valable aussi pour le Napoli.
Évidemment,
L'expérience sur les grands matchs, maintenant il en a. La gestion d'un vestiaire, il l'a. D'un vestiaire ambitieux, il l'a. Les jeunes joueurs, il n'a pas trop de problèmes, même si c'est pas un mec qui va te lancer tout de suite des jeunes joueurs, mais il a montré que quand il le pouvait, voulait, devait, il en était capable. Il a mis quand même, il faut le dire, un football assez sympa en place à Milan, qui était vraiment excellent l'année du
totalement.
Scudetto, un peu moins bon ensuite, mais quand même de qualité. Il faut vraiment pas dire que maintenant on voit plus de foot à Milan, c'est pas vrai. Il a le caractère normal, mais caractère ambitieux. La pression, il connaît après être passé évidemment dans les deux clubs de Milan, hein. Être passé à la Lazio aussi, à la Fiorentina, donc. Et puis, il y a un élément agréable, c'est qu'il parle de foot. Et ça plaît aussi aux Napolitains. Donc mon choix, c'est Pioli.
Écoute, tu parlais d'esthétisme aussi pour Naples, et c'est aussi,
Ah, je
c'est
vois
surtout le,
qui. Parce que
c'est surtout,
tu l'as pas placé encore, donc.
oui, c'est surtout, voilà, ce qui avait marqué le Napoli de Spalletti, l'esthétisme, avec le mélange avec le concret. Et c'est vrai que Italiano, Johan, à Naples, voilà, moi c'est quelque chose qui me ferait un peu frissonner, tu vois. Je dois avouer que, et d'ailleurs, ces deux noms, Pioli et Italiano, qui sont en lice, hein, pour le Napoli, qui sont assez hauts d'ailleurs dans cette shortlist. Mais c'est vrai que l'Italien, voilà, il a eu ce step de la FIO, et je pense qu'il est prêt maintenant pour une place comme là. Tout à l'heure, tu as très bien décrit l'environnement parfois méconnu de la Fiorentina. Et à Naples, voilà, il y a ce côté aussi volcanique. Et l'Italien a un caractère assez dur aussi, hein, même en conférence de presse, parfois il sait taper du poing sur la table quand il faut, mais à côté de ça, voilà, il parle de football, ça joue, c'est agréable. Il y a le 4-3-3 qui colle évidemment au Napoli. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses, et on le sait aussi que De Laurentiis est très fan d'Italien. Il y a eu beaucoup de contacts l'été dernier, mais ça s'était pas fait parce que voilà, De Laurentiis voulait pas froisser sa relation avec Joe Barone, qui est le dirigeant de la Fiorentina. Mais voilà, c'est un nom en tout cas qui pourrait revenir l'été prochain. Et je pense que c'est un nom, tu vois, qui pourrait matcher, qui pourrait justement, Johan, relancer cette notion d'esthétisme et de beauté de football qu'on a complètement perdu d'une saison avec Spalletti à l'autre entre Rudy Garcia et Walter Mazzarri. Donc, je pense que ce serait une bonne transition pour revenir à quelque chose de, voilà, de plus agréable à voir et de plus beau, en tout cas.
Et pour ceux qui ne connaissent pas l'anecdote, sachez qu'Italiano est né en Allemagne. Et oui, avant de revenir sur les terres siciliennes, mais il est né à Karlsruhe en Allemagne, donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote.
On a
fait les 8 clubs, et donc on est d'accord sur les deux où ça ne bouge pas, Inter, Atalanta, et ensuite sur les 6 autres, on est d'accord sur le fait de changer, mais on n'a aucun nom en commun.
Non, c'est vrai.
Aucun nom en commun, et on a switché, les plus proches qu'on a, c'est qu'on a switché Roma et Napoli. Entre Italiano et Pioli.
Et dernière chose, Johan, avant qu'on ferme ce podcast, moi, je remarque une chose, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais personne n'a placé Antonio Conte, quand même. Mmh. Et c'est quelque chose, parce qu'on en parle beaucoup. Évidemment, c'est en tricoté, mais je remarque qu'on ne l'a pas placé, Johan.
Mais parce que nous, on n'a pas envie d'être embêtés tous les 4 matins par un entraîneur qui... qui nous étrit en conférence de presse, qui est difficile à gérer, etc. C'est peut-être ça, la raison. En plus d'un salaire important, en plus d'un projet très court terme qui n'est pas toujours notre façon de voir les choses, hein, Guillaume. Donc,
Et surtout ça, hein, c'est le côté aussi salaire, le côté investissement, le côté mercato, le côté je peux claquer la porte du jour au lendemain. Donc, c'est pas évident pour un club de miser sur lui. Évidemment, il y a toute la carrière qui parle. Et voilà, quand tu le recrutes, alors je dis pas que t'es assuré de gagner le titre, mais pas loin. Mais
au moins d'être compétitif.
Exactement. Mais c'est quand même intéressant que c'est péril, parce que parfois aussi il peut te laisser des ruines et c'est pas évident. Donc voilà, moi personnellement, je dois l'admettre, j'aime beaucoup Antonio Conte. C'est un entraîneur que j'aime beaucoup et que. Si demain j'avais un club, je pense que je le prendrais. Mais dans tous les clubs qu'on a cités aujourd'hui, j'ai eu du mal à le placer justement, Johan, pour les nouvelles politiques qui sont mises en place par les clubs italiens. Et voilà, on sait qu'il y a en ce moment le grand débat à Milan, hein, sur Conte ou un autre profil. Mais voilà, par exemple, avec Milan, ça ne colle pas, en tout cas, d'un point de vue politique, mercato, vision de l'avenir, plein de choses. Donc, y a une espèce de paradoxe qui s'est créé à Milan et c'est un paradoxe qu'on retrouve souvent avec Conte, c'est-à-dire qu'un club qui mise sur lui, c'est une garantie de succès, forcément, pas loin, mais c'est aussi une garantie d'investissement, de dépenses, et d'avoir un profil que tu n'es pas certain de pouvoir gérer, parce que, comme tu l'as dit, en conférence de presse ou devant les micros après les matchs, ben voilà, parfois ça peut éclater, et même avec les joueurs. Hein. Parfois, c'est un bien pour un mal, mais... Attention, c'est pas évident de miser sur Conte, mais voilà, je remarquais qu'on l'a pas placé, Ivan.
Guillaume, entre-temps, j'ai réfléchi et je sais où je mets Paladino.
Ah.
Où? Parce qu'il y a un club qui m'agace profondément en ce moment, même depuis l'année dernière, qui a beaucoup plus de moyens que Monza, qui a plus d'ambition à court terme, qui a des meilleurs joueurs à peu près tous les postes.
Bologne?
Non.
Non, pas comme c'est agace quand même.
Non, je le mets au Torino.
Ah,
j'ai
oui,
envie de voir
oui,
du football dans l'autre club de Turin. Parce que Juric, là, je crois qu'il est arrivé au bout. Et lui aussi, hein, s'il ne se renouvelle pas assez rapidement, le côté défi physique, duel, second ballon, ça va avoir rapidement ses limites aussi. Parce que même un mec comme Gasperini, qui était un peu dans cette tendance-là, a aussi évolué en proposant beaucoup plus de jeux. Et là, moi, quand je vois des joueurs comme Samuele Ricci, comme Niko Vlasic, Ilic aussi au milieu de terrain, tu te rends compte qu'ils ont un milieu de terrain Ilic, Ricci, Vlasic, et qui proposent ce type de football-là. Donc, moi, Paladino, j'aimerais bien le voir. Maintenant, en plus, tu as Zapata devant. Tu as encore Sanabria qui est toujours là. Buongiorno, je ne sais pas s'il sera encore là l'été prochain, mais tu as aussi quand même quelques défenseurs de qualité. Bon, j'aimerais bien voir autre chose. Et pour moi, même si en termes de, tu vois, de classement, on est un peu dans le même rang, dans le même range, en termes de moyens mis et d'ambition, je pense qu'on est un peu plus haut du côté du Torino. Donc, Paladino, je vois, j'aimerais bien le voir au Torino. Et dernier nom qu'on n'a pas donné, Guillaume, qui revient de
Allez.
temps en temps comme ça, c'est Farioli. On n'y a pas pensé, on ne l'a pas placé, on fait quoi? On laisse encore un an à Nice et on attend de voir un peu comment ça
Oh,
évolue.
écoute, moi j'aimerais bien avoir continué à Nice au moins un an.
Ouais.
La première année, voilà, j'ai l'impression que c'était une année aussi d'adaptation, hein, très bonne, mais voilà, il prend ses marques dans le football français. Donc une deuxième avec une première derrière lui, je pense que ça peut être intéressant à voir. Et
Et
surtout
après,
Nice,
on se
Johan.
dépêche de le rapatrier.
Ouais, c'est très proche de l'Italie, Nice. Il prend la voiture, il revient très vite, hein. Donc, laissons-le encore une année à Nice. Mais je pense que, voilà, le revoir en Italie, pas l'année prochaine, mais c'est, enfin, pas l'année prochaine, ouais, et l'année d'après, moi, c'est un truc qui me, voilà. Il aura fait 2 ans en Ligue 1. Voilà, on va essayer d'éviter de faire comme des Zerbi et que ce soit assez compliqué de le rapatrier, hein, notre ami Farioli. Donc,
Exactement.
voilà.
Eh ben écoute, Guillaume, c'est parfait. On n'oublie pas d'aller faire un tour sur le shop Calcio et Pépé. Point shop, vous avez 10% de réduction en ce moment. On n'oublie pas non plus de mettre les 5 étoiles qui est aux mains sur Apple Podcast et
Toujours,
sur
toujours.
Spotify où ça continue. Vous êtes nombreux à nous mettre des 5 étoiles, des commentaires, etc. Donc n'hésitez pas, c'est ça qui fait remonter le podcast dans les classements et qui permet de le faire découvrir à de nombreux autres
Et
auditeurs
c'est
et
gratuit, Johan. C'est gratuit
auditrices.
en
En plus,
plus.
c'est gratuit,
Ça nous fait
évidemment.
plaisir, c'est gratuit, honnêtement.
Exactement.
Voilà.
Tout pour plaire. Et puis nous, on se
Exactement.
dit à très vite pour un nouvel épisode du podcast Calcio PP. Et comme les Coupes d'Europe reviennent, Guillaume, on aura le temps de s'y pencher dans quelques temps, parce qu'il y a quand même
Bien
des gros
sûr.
matchs qui nous attendent et des matchs pas toujours très faciles pour nos clubs italiens. À très vite. Ciao, ciao.
50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.